la rubrique culturelle L'air de rien, présentée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour à tous. L'air de rien consacré aux femmes. Vous savez qu'il y a la semaine des droits de la femme et il y a eu beaucoup de livres sur ces femmes inconnues. Mais on va parler avec Corinne Girieux. Bonjour Corinne.
Bonjour Sylviane.
D'un livre plus spécifiquement consacré aux raisons pourquoi les femmes ont été invisibilisées. Donc c'est le titre de l'émission. Et le titre du livre à la collection Capitelle aux éditions La Cabane, c'est emprunté à qui le titre ?
Il est emprunté à la banderole qui avait été déployée de sous l'Arc de Triomphe et qui, sur laquelle était écrit « Il y a plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme ». Et donc, c'était donc le début du MLF et moi j'ai choisi comme titre « Il y a plus inconnu qu'un artiste inconnu, sa femme artiste ».
Donc le sous-titre de votre livre, c'est « Réflexions sur les causes de l'invisibilité des artistes femmes dans l'histoire de l'art ». Alors vous êtes enseignante d'histoire de l'art au MOCO.
Oui.
Depuis longtemps.
Depuis 2010, oui. Voilà, donc c'est à l'école des Beaux-Arts de Montpellier, oui.
Spécialisée dans le XXe siècle.
Voilà, 19e, 20e exactement, voilà. Et plus spécifiquement le 20e, oui.
Alors déjà une thèse, c'est un sujet qui vous a toujours intéressé, ce problème des femmes, ou c'est à force d'enseigner que vous avez voulu vraiment chercher le pourquoi?
Effectivement, ça ne m'a pas intéressée au départ. Ma thèse n'est pas du tout là-dessus. Elle était plutôt sur une idée de la vision sociale de l'art pour certains artistes des années 50. Mais en fait, à force d'enseigner l'histoire de l'art et donc de ne parler pratiquement que d'hommes, à part en gros Berthe Morisot pour le 19e siècle par exemple, et d'avoir devant moi essentiellement des étudianteux, parce que en tout cas aux Beaux-Arts de Montpellier, il y a beaucoup de jeunes femmes.
Je pense que c'est pas qu'à Montpellier.
Oui, je pense, mais voilà, je ne veux pas généraliser. C'est vrai que ça a commencé à me poser problème de jamais leur montrer un exemple, de leur en montrer si peu et de me dire qu'il y avait vraiment un souci. Et puis, en histoire de l'art, on présente aussi des tableaux où il y a beaucoup de femmes dénudées, donc peintes par des hommes. Et donc, je me suis demandé pourquoi et je n'arrivais pas à trouver la réponse de pourquoi. Enfin, il y a une réponse qui est donnée tout le temps, c'est l'école des Beaux-Arts de Paris était interdite aux femmes jusqu'en 1897. Mais c'est une réponse à l'évidence qui ne répond à rien. Quoi.
Incomplète, parce qu'il y a eu tout de même quelques femmes artistes avant. Et en fait, on ne peut pas parler du 19e et du 20e sans commencer, disons, au 17e, au moment des Beaux-Arts, du développement vraiment de la peinture, enfin, ou des beaux-arts en général.
Oui, tout à fait. Et puis, maintenant, il y a des recherches qui montrent que justement, dans le tournant 18e, 19e, c'est une période où les artistes femmes sont très nombreuses. Séverine Sofio, une historienne de l'art, a appelé ça la parenthèse enchantée. Et effectivement, il y a énormément de femmes qui peignent et qui ont du succès et qui vendent beaucoup, même qui font vivre leur famille parfois, parce que ce sont, par exemple, des familles qui, après la Révolution française, se retrouvent sans moyens, des familles nobles, par exemple. Et donc, ils poussent leurs filles à être peintres, et ça fonctionne. Elles font des portraits, notamment. Et aujourd'hui, on en connaît très, très peu.
Donc, une parenthèse enchantée.
Qui s'est fermée.
Et puis, qui s'est refermée.
Et après, il y a eu le code Napoléon, donc c'était plus possible.
Ouais. Et donc, pourquoi, en fait, elles ont été invisibilisées? Pourquoi il y a eu cette parenthèse enchantée? Et pourquoi elle s'est fermée? Et pourquoi actuellement ça se réouvre un petit peu? On parle beaucoup là de l'exposition Suzanne Valadon. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais il y a tout de même un côté positif. Est-ce que dans votre livre qui vient de paraître, je le dis tout de suite, vous faites une conférence au Carré d'Art ce samedi 1er mars à 16h.
C'est ça.
Et aussi une au Prolé. Le 15 mars à 11h.
Voilà,
donc,
tout à fait.
Pour se procurer le livre, on va à une de ces deux conférences. Et puis, c'est toujours intéressant de rencontrer la personne de visu. Donc, un livre, vous avez aussi, ce qui est important aussi, cet aspect social, cet aspect sociétal, on pourrait dire. Vous avez créé cette collection dans une édition associative. Donc, ça vous tient à cœur aussi, La Cabane.
Oui, La Cabane Édition. En fait, j'ai monté ça avec une ancienne étudiante, Audrey Plancher, puisque souvent on fait des belles rencontres aux Beaux-Arts et qui perdurent. Et Audrey et moi, on adore On adore tout ce qui touche à l'édition. On peut s'envoyer des photos de reliures, par exemple. Enfin, voilà, c'est une des rares personnes avec laquelle je peux faire ça. Et puis, donc, c'est devenu une association. Et au bureau de l'association, il y a aussi des anciens et anciennes étudiants et étudiantes. Et normalement, on fait du livre d'artiste. Et puis là, comme on avait très envie de publier cet essai, ben, on a créé la collection Capitelle, comme un refuge au milieu d'un paysage aride, la Capitelle, quoi.
La Capitelle. Et c'est très bien qu'on vous donne la parole justement lors de deux semaines féministes, on va dire, avec toutes les parenthèses, parce que c'est tellement compliqué actuellement d'employer ce mot féministe, hein, il est tellement un peu galvaudé. Vous avez choisi comme musique pour la chanson d'Adèle, hein, Balance ton quoi, donc on est un peu dans cette époque, mais il ne faut pas schématiser, je veux dire, votre livre, il est beaucoup plus dans une perspective historique, j'allais dire presque un peu sociologique. Hein. Vous voulez faire bouger les choses?
Bah, comme vous dites, il faut pas simplifier, schématiser. Et d'ailleurs, au départ, ce livre est parti d'une liste d'idées. Enfin, j'ai essayé de comprendre une liste de raisons pour lesquelles j'avais tant de mal à démasculiniser mes cours. Et comme à chaque fois, il fallait effectivement complexifier, contextualiser, rendre l'aspect social et sociétal. C'est devenu, d'une liste, c'est devenu, je ne sais pas, 160 pages et énormément de livres lus. Et donc, oui, il y a cette idée de faire bouger un petit peu les choses. Voilà, notre révolution féministe, elle est quand même faite essentiellement de pensée.
Bien sûr.
Elle est quand même très, très pacifiste. Et voilà, donc je mets ma petite pierre à l'édifice, j'espère.
Avec une bibliographie. Moi, j'aime beaucoup les livres où il y a une grande bibliographie comme ça. On peut chercher, approfondir.
C'est vraiment l'idée. Ouais.
C'est vraiment l'idée. Il n'y a pas de photos pour des raisons économiques.
Ouais, comme ça, ça fait un petit livre à 12 euros.
À 12 euros. Donc,
Après, qu'il y a tellement de choses sur Internet. Alors, justement, il n'y a pas forcément toujours des bonnes reproductions d'artistes femmes, ce qui est un problème quand on enseigne l'art, parce qu'on ne peut pas enseigner sans montrer des images. Donc, mes images ne sont pas toujours de très bonne qualité, pas toujours très bien référencées, parce que ça, c'est un autre problème aussi de l'invisibilité des femmes.
Il y a beaucoup de choses, peut-être, en fait, qui ne sont pas connues, qui sont encore dans des greniers, ou qui ont été détruites, peut-être, ou on a repeint dessus,
Oui, ou c'est dans des collections particulières et ça n'est pas connu des historiens et historiennes. Mais comme vous le disiez, la bibliographie montre qu'en ce moment, on est dans un bon mouvement. Voilà, le tout, c'est qu'il ne s'arrête pas, que ce ne soit pas une deuxième parenthèse enchantée.
Alors, il est facile à lire parce qu'il est très, j'allais dire, très pédagogique. Hein. Il y a un prologue, une introduction, les temps d'apprentissage, c'est important. Hein. Pourquoi comment les femmes pouvaient apprendre, hein, parce que même si on est talentueux, même si on a du génie, il faut tout de même apprendre. La vie d'artiste, la fortune posthume, c'est-à-dire même morte.
Elles sont empêchées d'exister.
C'est pauvre.
Voilà, c'est dur.
Là, c'est dur. Alors, je vous propose peut-être que, je pense que l'introduction, là, on voit vraiment quels ont été vos objectifs. Est-ce qu'en faisant cette recherche, vous avez eu la réponse à vos questions? C'est-à-dire, pourquoi les femmes ont-elles été invisibilisées?
Alors oui, j'ai eu des réponses, parce qu'en fait, c'est une série d'empêchements. Donc, depuis les études, où on essaye qu'elles ne fassent pas la peinture d'histoire, hein, donc qui était la peinture la plus valorisée. Alors, il y a des raisons. Hein, c'est que pour faire de la peinture d'histoire, il faut dessiner le corps humain. Donc, pour dessiner le corps humain, il faut avoir suivi des cours de modèles vivants. Et une jeune femme ne peut pas regarder un homme nu. Donc, c'est pas possible. Voilà, c'est QFD, en fait. Donc, déjà, elles sont empêchées là. Puis ensuite, on ne les motive pas à faire des études.
La maternité, en fait.
De toute façon, la femme, son seul objectif, c'est de se marier et de devenir mère, puisque ce sont les créatrices absolues, puisqu'elles créent l'être humain. Et en plus, elles le créent autant à son image, en comptant, elles peuvent faire autant des bébés filles que des bébés garçons. Donc, c'est quand même... elles peuvent pas rêver mieux, donc elles n'ont pas d'autre chose à faire.
On a du mal à comprendre comment les hommes ont mis les femmes dans cette case. Alors, c'est les plus grandes créatrices. C'est très beau ce que vous dites, c'est vrai.
Oui, non, mais donc elles n'ont pas besoin de faire autre chose que ça. Et puis, de toute façon, elles sont d'une santé trop fragile. Il ne faut pas qu'elles aient trop d'émotions. Elles sont mineures à vie pendant quand même pas mal de siècles.
Enfin, les femmes du peuple, elles pouvaient travailler. Hein.
Ça, c'est que les artistes viennent souvent d'un milieu bourgeois. Donc, c'est une autre éducation.
Non, mais je pense que c'est important de contextualiser, puisqu'on a dit que vous étiez spécialiste du XXe siècle, mais il faut commencer avant la Révolution française. Et je pense à toutes ces toiles de ces femmes, justement, qui montrent les femmes du peuple. Et là, les bourgeois, ça ne les gênait pas qu'elles travaillent comme des hommes, quoi.
Oui. Mais d'ailleurs, c'est quand l'art sera vu comme une activité, finalement, une activité libérale, que les femmes y auront accès. Donc, c'est pendant cette période de la Révolution française où là, l'art n'est pas vu comme peut-être une science de l'esprit, disons, mais plus comme un moyen de gagner sa vie. Et là, les femmes ont beaucoup plus d'accès à l'art.
Presque en le dévalorisant, disons, c'est plus manuel que...
Non. Oui, il y a un peu ça. De toute façon, on a des exemples, par exemple, la peinture de fleurs, qui est aujourd'hui plutôt considérée comme une peinture féminine, quand elle était considérée comme une peinture scientifique, était une peinture masculine. Donc, à chaque fois que les choses passent du côté du féminin, c'est disqualifié, c'est dévalorisé. C'est assez malheureux, mais c'est... Voilà.
Et est-ce que vous vous intéressez, c'est difficile, combien vous m'avez dit, 120 pages, de parler de tout, vous limitez à l'Europe, vous limitez à...
Oui, là, on est là, vraiment, c'est plutôt de...
Les anciens empires, en fait, occidentaux, quoi, à peu près, non ?
On est surtout sur de l'art français. Il y a quelques exemples. Il y a, par exemple, le Bauhaus, donc l'école du Bauhaus, donc un peu d'art allemand, et un petit peu quelques exemples aux États-Unis pour montrer que les choses sont peut-être généralisées.
Se sont exportées, quoi.
Oui, voilà, il y a des manières de penser qui, malheureusement, s'exportent très bien, oui.
Alors, je vois dans la première partie les ateliers pour jeunes filles. Alors, il y a eu tout de même une époque où on a créé des ateliers pour jeunes filles. Alors, pas de nus, toujours.
Bien, ils ont trouvé une solution, c'est de mettre des caleçons aux garçons. Voilà.
Donc, il fallait imaginer.
Oui, bon, je pense que ce n'était pas très, très compliqué. D'autant plus qu'on dessinait le nu pour après l'habiller. Donc, de toute façon, c'était... Voilà. Mais oui, il y a eu une grande période d'ateliers pour jeunes filles où les professeurs passaient moins souvent, où ils étaient moins exigeants, où les cours étaient plus chers, où il y avait beaucoup de monde. Donc, les conditions n'étaient pas excellentes. Ouais. Mais au moins, les jeunes femmes et les jeunes filles pouvaient se réunir, peindre ensemble, discuter. C'est important, ça, la sociabilisation. Parce qu'on n'invente rien quand on est seul, en fait.
Mais elles étaient toutes des jeunes filles d'origine petite et moyenne bourgeoisie.
Oui, plutôt. Oui, voire grande bourgeoisie. Et puis, de plus en plus, après, des ateliers s'ouvrent un peu pour, de manière plus large.
Oui, mais ça ne devait pas être évident pour ces femmes. Il fallait vraiment...
Je pense qu'il fallait avoir un sacré caractère, oui. Ouais.
Je pense toujours à Camille Claudel, au film qui a été fait. Bon, là, c'est peut-être même pas surévalué, mais je veux dire... Elle est presque un peu caricaturale.
Oui.
Oui, donc il faut gratter pour voir un peu ce qui est plus dans le quotidien, puisque Camille Claudel, c'est même quelqu'un de hors norme, je pourrais dire.
Mais les personnages comme Berthe Morisot, par exemple, je pense, avaient aussi un sacré caractère. Mary Cassatt aussi, qui venait des États-Unis, sont des femmes, ce qu'on dirait aujourd'hui, on les qualifierait de femmes fortes. Et Marie Baskirtseff aussi, qui est une jeune peintre qui va mourir très jeune, qui a écrit son journal intime, c'est pour ça qu'on la connaît bien. Elle avait l'air d'avoir un sacré caractère aussi.
Et puis Alice Guy, parce que les Beaux-Arts, c'est aussi le cinéma. La réalisatrice Alice Guy est complètement oubliée, donc pendant des années, même des décennies. Et pourquoi vous avez intitulé pourquoi il y a cette partie contre l'excellence féminine ?
Oui, mais dans l'éducation, vraiment dans les livres d'éducation, on ne les pousse pas du tout à aller à visualiser loin. C'est-à-dire que dans les énoncés même,
passe-temps, quoi.
Oui, c'est ça. En fait, il faut juste leur donner un peu d'éducation pour qu'elles ne soient pas trop idiotes et qu'elles ne s'ennuient pas trop leur mari. Mais voilà, il ne faut pas les projeter trop loin.
En fait, ça rejoint l'autre chapitre dans la vie d'artiste, une menace diffuse pour les hommes. Ils ont très peur, en fait.
Oui, curieusement, parce qu'on n'est pas très effrayante, mais au cas où. Oui, il y a toujours cette idée. Vous remarquerez dans les tableaux, par exemple, dans les tableaux où il y a des groupes d'artistes, ce sont que des groupes d'artistes hommes. Alors qu'en fait, parfois, très souvent, il y a des femmes qui œuvrent autour.
Oui, je pense au grand tableau des impressionnistes, là, qui sont tous ensemble. Il ne me semble pas dire de bêtises qu'il n'y a pas de femmes.
Oui, il y a un tableau où il y a une femme, c'est le tableau de Maurice Denis, où il y a sa femme Marthe, mais qui est là, qui est là en spectatrice. D'ailleurs, elle a des lunettes à la main, elle est juste là pour regarder, alors qu'elle était artiste elle-même et qu'elle a travaillé parfois sur les tableaux de son mari. Donc,
Oui, parce que souvent, les artistes hommes épousaient des femmes qui avaient beaucoup de talent.
Oui,
donc c'est un problème
artistes.
De couple aussi. Je pense que l'invisibilisation des femmes, c'est un problème sociétal, c'est un problème du couple, en fait, la définition du couple.
Il y a un problème dans les couples d'artistes, où les femmes font beaucoup pour leur mari et l'inverse n'est pas vrai. Bon, le cas des Delaunay est exemplaire à mon sens, parce que Sonia Delaunay est devenue femme d'entreprise pour permettre à son mari de travailler à son œuvre sans se préoccuper de rien, alors que lui-même avait apparemment pas mal d'exigences financières sur ses costumes, enfin. Et elle, en fait, sa création, c'est devenu sa maison de tissus. Mais en fait, en même temps, ses recherches autour des motifs de tissus sont les mêmes que ses recherches en peinture. Donc, on pourrait dire qu'elle a fait des tableaux vivants en habillant les femmes et les hommes.
En fait, on pourrait presque dire que d'être empêchée, ça peut être stimuler, trouver des parades pour créer peut-être différemment. L'exemple que vous citez est assez...
Oui, mais ce n'est pas le seul. Mais oui, effectivement, les femmes se sont pas mal, ont trouvé pas mal de parades.
Ouais.
Pas faire d'ombre à leurs époux et en même temps réussir à s'épanouir visiblement dans leur travail autre.
Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Pas les te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. T'es pas si bête pour une fille drôle. T'es pas si laide. Tes parents et ton frère ça aide. Oh, tu parles de moi. C'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter. Allez te faire en où je serai poli pour la télé.
Alors, sur Radio Alliance Plus, nous continuons la lecture du livre de Corinne Girieux avec Corinne. Merci d'être venue.
Oui, merci de m'avoir invitée.
Ce livre est le titre, un peu long.
Un peu long.
Il n'y a plus inconnu qu'un artiste inconnu, sa femme artiste.
Voilà.
Et nous parlions des couples d'artistes. Hein. C'est vrai que souvent, ils se marient aussi entre eux. Hein. Les artistes hommes, épouses, les filles. Enfin, c'est assez étonnant. C'est vraiment une étude sociologique. Alors, quand elles arrivent à, on va dire, percer, la deuxième partie, c'est la vie d'artiste. Mais elles sont malgré tout mineures à vie. Hein. C'est-à-dire, elles passent de l'autorité du père à l'autorité du mari. Est-ce qu'on pouvait rester célibataire?
Ça, c'était le mieux, en fait. Enfin, je crois que le mieux, c'était d'être veuve, d'être suffisamment jeune, pardon. Hein.
Empoisonner son mari, allez.
Voilà. Et donc, après, de ne plus avoir besoin, de plus être embêtée avec l'obligation de se marier et de pouvoir donc travailler tranquillement. Bon, c'est cynique ce que je dis, mais voilà.
Il y a eu des exemples
Par exemple, Sonia Delaunay-Terck, ouais, son mari est mort à 43 ans. Donc, après, elle a passé beaucoup de temps à travailler à la reconnaissance de son mari. Et sans elle, il serait beaucoup moins connu, Robert Delaunay. Mais à partir de là, Sonia Delaunay-Terck a fait beaucoup, beaucoup de choses aussi pour elle. Elle a participé à beaucoup de groupes d'artistes aussi. Elle a été très, très active. C'est vraiment une femme incroyable.
Donc, dans la bibliographie, il y aura toutes les références pour s'intéresser à Sonia Delaunay, mais c'est un exemple parmi d'autres.
Oui.
Hein. Ça n'a pas été trop vaste. Comment vous avez réussi à synthétiser tout de même?
Oui, alors je voulais vraiment synthétiser parce que je voulais vraiment faire... Moi, j'adore les livres courts que je lis en un week-end et où après, je sais que j'ai fait le point sur une question et je voulais faire ça avec une bonne bibliographie pour approfondir après. Et puis, il y a l'idée aussi de bien montrer que cette recherche est en marche et que c'est hyper joyeux quoi, d'avoir tous ces gens, notamment des femmes, des historiennes qui travaillent sur ce sujet. J'ai réussi à ne pas m'éparpiller parce que quand j'ai fait une thèse, déjà, je savais que je ne pouvais pas être exhaustive. Donc, oui. Voilà. Donc,
à partir de là... Il n'y a pas de biographie dedans. Hein. Je pense que ce n'était pas le but.
Non, le but, c'était vraiment...
le nom. Et voilà.
Voilà.
Peut-être les dates de naissance et puis de mort. Et, puis, et même pas.
Non, même pas. Après, il faut aller fouiller.
Il faut faire sa recherche.
C'est un livre à, voilà, avec des liens. Voilà. Il faut se dire qu'il faut aller chercher après. Voilà.
Oui. Quand vous parlez des critiques insidieuses, on se doute, hein, c'est-à-dire qu'a priori les hommes ne trouvent pas ça magnifique, mais écartées des intentions de validation, c'est-à-dire elles n'ont jamais la reconnaissance, j'allais dire commerciale, enfin on sait qu'après elles ont du mal à, leurs toiles ont du mal à entrer dans les musées.
Oui, c'est ça, notamment, ou par exemple quand le salon est très important, au XIXe siècle, on ne peut exposer qu'au salon officiel. Ben, pendant des années, elles ne sont pas autorisées tout simplement à y exposer. Et puis ensuite, quand elles y exposent, alors elles ont pas mal de médailles, mais on remarque que ce sont des médailles de petite catégorie. C'est des médailles pour le pastel, par exemple, enfin pour des, parce que tout est hiérarchisé. Donc, le pastel est moins bien que la peinture à l'huile. Ce sera plus pour la peinture de genre que de la peinture d'histoire. Enfin, voilà. Et donc, tout ce qui permet de labelliser une œuvre, les femmes n'y ont pas droit, en fait.
Alors, si ce n'est pas validé, que font-elles de leurs œuvres? Elles arrivent à les vendre disons, à des privés, à des collectionneurs, ou elles détruisent, ou parce que ça coûte cher de produire, donc
en fait,
elles réutilisent.
Assez rapidement, les femmes ont l'habitude de faire des œuvres qui se vendent. Elles ont toujours ce souci de surtout pas gaspiller leur temps ni leur argent.
Rentabilité.
Ouais. Voilà, et donc elles vont faire...
Elles sont veuves.
Oui, voilà, mais même souvent, c'est elles qui s'occupent du foyer, donc elles savent les dépenses, quoi. Donc il ne faut pas qu'elles coûtent trop d'argent. Et donc, par exemple, elles font des portraits quand la photographie n'existe pas. Ça se vend bien.
Plutôt des petits formats, non, pas nécessairement.
Je pense que ça dépend de qui commande le portrait. Et puis après, elles font beaucoup de reproductions aussi. Donc ça se vend bien. De la peinture sur porcelaine. Donc c'est des petites choses qui sont, bah, comme on achète aujourd'hui des cartes postales. Donc c'est un peu de l'industrialisation de l'art. Et puis bon, il y a quand même quelques œuvres d'artistes femmes dans nos musées, heureusement.
Heureusement. Alors justement, c'est la troisième partie, la fortune posthume, même encore maintenant, c'est difficile. De quand vous datez, si ça a vraiment existé, si ça existe, la même visibilité aux artistes femmes qu'aux artistes hommes? C'est pas encore...
Ça, il faudra poser la question à une historienne future qui vient après mon décès, je pense. Hein. Non, je pense que là, c'est pas encore le cas. Il me semble que si on pose spontanément la question à quelqu'un, la question de quels sont tes artistes préférés...
Ah oui, quand
préférés,
on avait fait un micro-trottoir et les gens vous citaient 9 artistes hommes et de temps en temps, une femme.
Oui, voilà.
Sur 10.
Alors que, voilà, il y a... Et puis même, les artistes hommes ont du mal à citer des artistes femmes comme ayant été pour eux un exemple. Alors qu'il y a des filiations qui se voient quand même. Mais autant une femme va facilement citer un maître que citer... Alors justement, si je dis une maîtresse, du coup, on est plutôt dans le même registre.
Mais oui, moi, je pense à ces artistes, à toutes ces artistes immigrés russes qui sont devenues les muses des artistes, parce qu'on n'a pas parlé de ces femmes muses, ces femmes modèles qui souvent ont fini leur vie avec les artistes, les ont inspirées. C'est vraiment très, très complexe, hein, je trouve, cette relation homme-femme, et peut-être dans le milieu artistique, encore pire, il y a une rivalité, je ne sais pas.
Oui, et puis les muses, en fait, sont assez souvent des artistes elles-mêmes. Qui deviennent modèles, muses, qui parfois font le travail participent activement à la préparation des tableaux, etc., et ne sont pas reconnues, alors qu'elles ont sûrement plein de choses à dire aussi.
Alors, il y a un paragraphe qui me semble dramatique, qui est une absence de source. C'est-à-dire, vous parlez des historiennes du futur, vos élèves aussi. Comment retrouver toutes les traces de ce qui a été fait par les femmes?
Alors, le problème vient aussi sûrement des femmes qui n'ont pas gardé force. Enfin, il y a des hommes qui ont gardé tous leurs brouillons, tous leurs écrits, qui ont écrit des choses, qui ont publié. Et puis, les femmes se sont souvent contentées juste de pas faire de bruit, de peindre dans leur coin.
Elles n'ont pas fait de livres, elles n'ont pas théorisé.
Voilà, et puis elles n'ont pas jugé nécessaire de garder.
Pas le temps,
voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est compliqué parce que souvent, elles s'occupent de la maison en même temps et la charge mentale, c'est quelque chose d'énorme. Donc, on manque de sources. Et puis, les femmes changent de nom aussi en se mariant. Donc, il faut que l'historien ou l'historienne fasse le lien entre un nom et puis un autre. Il y a une période aussi où elles changeaient de prénom en fonction des modes. Donc là, au niveau de la traçabilité, c'est très compliqué.
Oui, quand on voit Suzanne Valadon, on dit toujours la mère du trio. Oui, si elle se définissait comme la mère du trio.
Je trouve que son travail est bien supérieur à celui de Maurice Utrillo, mais bon, ça c'est mon avis. Et puis Suzanne Valadon ne s'appelait pas Suzanne Valadon au début. C'était Marie, donc, et puis elle s'appelait Maria quand elle faisait du cirque. Enfin, elle a changé de nom plusieurs fois aussi.
Alors, bien sûr, vous avez fait votre recherche sur les femmes artistes. Je suppose que si on cherche les femmes autrices, écrivaines, on aurait la même chose.
Exactement.
On a eu la réalisatrice Alice Guy. Je pense à Marie Curie aussi, hein, quand son mari est mort. J'aime beaucoup la phrase quand on lui demandait « Qu'est-ce que ça fait de vivre avec un génie ?» Pierre Curie a dit « Demandez à mon mari. » Je trouve ça superbe. Donc, je pense qu'il y a un tas d'autres domaines où, en fait, c'est la même problématique.
Oui. D'ailleurs, tous mes chapitres s'ouvrent par une citation de Virginia Woolf dans Une chambre à soi, parce qu'elle avait déjà tout compris sans avoir lu tout ce que j'ai dû lire, moi. Et tout est vraiment dans ce livre. Et là, ça concerne les écrivaines anglaises du 19e siècle. Donc, je crois qu'on peut transposer dans la musique, dans le cinéma, etc.
Oui,
dans
le cinéma,
science.
En plus, avec beaucoup de scandales. Hein. On est dans cette ère où ça, tout de même, ça change beaucoup. Est-ce que votre livre... je viens de l'avoir en main, mais bon, c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps, donc je ne l'ai pas lu. Mais a-t-il un ton polémique? A-t-il un ton à charge ou pas du tout?
Non, j'essaye de donner les faits, rien que les faits.
Je savais la réponse, mais j'ai posé tout de même la question.
J'essaye de dire les choses telles que je les perçois, mais en m'étant quand même beaucoup documenté, de manière à juste donner les faits qui, à mon avis, parlent d'eux-mêmes. En fait, c'est déjà tellement édifiant que ce n'est pas la peine.
C'est pas contestable.
Ouais. C'est même pas la peine d'en rajouter.
Donc, je rappelle qu'on peut vous entendre au Carré d'Art le samedi 1er mars à 16h, le samedi 15 mars au Prolé à 11h, et qu'on peut se procurer donc le livre « Il y a plus inconnu qu'un artiste inconnu, sa femme artiste » de Corinne Giriot. Merci à vous.
Merci beaucoup.